Vous écoutez Quoi de Meuf, le podcast féministe et intersectionnel qui parle pop culture. C'est une discussion à deux. Chaque semaine, accompagnée d'une de mes acolytes, on parle aussi bien de société que de politique, de patriarcat, de chat, de tofu et de Rihanna. Je suis Clémentine Gallo.
Et moi, Anne Lorpineau.
C'est parti !
C'était un jour peut-être venteux, en tout cas un jour mémorable pour toutes les lesbiennes et autres bi, quand l'annonce est tombée au début de l'année 2019. Un reboot de la série The L Word était en préparation, 10 ans après la fin en mode murder de la série. La sortie des nouveaux épisodes est donc prévue pour le 9 décembre aux États-Unis et Canal Plus série en France. Elle a été annoncée par un trailer avec le personnage de Shane qui descend d'un avion. Ça commençait bien.
Listen, I love you both.
Love you.
Ready? Okay. Yeah. Three, two, one,
go. Oh, so gross.
Nous, on a eu la chance de voir les 3 premiers épisodes et on va tout faire pour ne pas trop vous spoiler, mais on va d'abord en parler avec Anne-Laure Pinault. Salut.
Salut Clémentine.
Alors, est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'était The L Word pour les personnes qui ne nous connaissent pas ?
Girls in tight dresses who drag with mustaches.
Bien sûr, alors The L Word, c'est Jenny, Dana, Beth, Tina, Shane, Alice, Marina, Elena, Papi, Tasha, Jody. C'est une série qui est sortie sur Showtime entre 2004 et 2009, donc 6 saisons. C'est l'œuvre d'Eileen Shaikin, j'espère que j'ai bien prononcé. Une productrice de ouf qui a été formée chez Spelling & Company, le papa de Tori Spelling, pour info, qui a travaillé sur Le Prince de Bel-Air, le fameux, avant de devenir productrice exécutive de Handmaid's Tale, La Servante Écarlate, en français. Donc le casting, c'est d'abord a priori des actrices inconnues, mais il y a Pam Grier, qui est ouf, et qu'on avait vu dans le film de Tarantino.
Jackie Brown.
Jennifer Beals, qu'on avait vu dans Flashdance, le film extraordinaire de danse, c'était ouf. Après la série, il y a eu un séquel qui s'appelait The Real L World, mais bon, un peu moins intéressant.
Jamais entendu parler.
Oui, c'est passé un peu à la trappe, et pour cause, nous, on préfère que les L Words soient dans un petit ailleurs fantastique plutôt que dans la réalité, quoi.
Oui, tu parlais de la créatrice de l'émission, donc Eileen Shaikin. En fait, elle raconte dans une interview qu'elle a toujours été out comme lesbienne, qu'en fait, elle ne s'est jamais posé la question et qu'elle était extrêmement naïve sur les rapports professionnels à l'époque. Elle dit aussi que la misogynie était atroce. Ce n'est pas une grande surprise dans le monde de l'entertainment à ses débuts. Et évidemment, elle dit qu'elle a eu beaucoup de mal à monter ce projet puisque ça n'intéressait personne. Et elle a également été critiquée ensuite quand la série est devenue très connue. Ce qui est souvent le cas quand on est pionnier ou pionnière dans un domaine. On l'écoute parler un peu de sa carrière.
In the 80s, throughout the 80s, Hollywood's relationship to women, both as we're portrayed on screen and as women were treated in all facets of the film and television business, was kind of a horror show. We were objectified and sexualized and expected to and hit on and dismissed and overlooked in every possible way.
Alors pour les non-anglophones, il faut bien souligner qu'on dit « the L word » et non pas « the L world ». Le mot en L qui n'est pas dit car ça pourrait choquer, c'est donc le mot « lesbienne ». Et d'ailleurs, pour beaucoup de lesbiennes en France, « the L world », ça a été vraiment l'une des premières occasions de se représenter plusieurs années après la sortie du film de Josiane Balasko, « Gazon maudit ».
Je connais un type à qui il est arrivé une histoire hallucinante. Le type marié, heureux. Couple exemplaire. Et ben sa femme le trompait avec une autre gonzesse, tu crois ça ?
D'ailleurs, on en profite pour vous recommander le documentaire de Clémence Alzard, réalisé sur France Culture, qui s'appelle « Sortir les lesbiennes du placard ». Et c'est en plusieurs parties.
Oui, c'est un super documentaire, vraiment, on vous encourage à l'écouter. Oui, donc comme tu disais, L Word, ça a permis de mettre à l'écran des personnages qui étaient jusque-là invisibles. En France, oui, il y avait le super personnage de Josiane Balasko, mais c'était à peu près tout. Mais aussi des personnages pas lesbiens, des noirs, des latinos, des personnes qui ont un handicap. C'est des choses qui n'étaient pas vues en France et pas vues non plus à la télévision américaine. On a par exemple une personne bi, une personne sourde, un homme trans qui est gay. Bref, c'est un peu drôle de regarder ça aujourd'hui avec nos petites lunettes de 2019. Moi, je me souviens bien des scènes de PMA artisanale à l'époque. Je regardais ça en me disant « Ah, mais en fait, c'est finalement facile de faire un enfant. » Bon, je ne savais pas trop que j'étais en France et quel adulte je serais en France.
C'est pas le même contexte.
Non.
Et alors, il faut rappeler, pour les personnes qui sont peut-être plus jeunes que nous, que la série originale était garantie 100% drama Gwyn. D'ailleurs, aujourd'hui, tout le Gwynistan est en alerte à l'aube de la sortie de la nouvelle saison. Et donc, à l'époque, donc, la créatrice Eileen Shaken justifiait l'existence de la série en disant « Il y a une anthropologie unique dans nos vies. Ça vaut vraiment la peine de raconter ces histoires, puisque la plupart des gens ne connaissent pas ces détails. » En fait, elle voulait vraiment parler de ce qu'elle connaissait, c'est-à-dire le microcosme du quartier de West Hollywood à Los Angeles, donc c'est assez spécifique. Et à l'époque, effectivement, tu l'as dit, la série parlait déjà de PMA, questionnait la monogamie, le male gaze, donc le regard masculin, les privilèges masculins. Il faut quand même rappeler que c'était avant le mariage pour tous aux États-Unis et aussi l'interdiction du principe qu'on appelait « don't ask, don't tell » dans l'armée, donc où les personnes LGBT ne pouvaient pas être « out ». Donc dans la série, il y avait notamment un couple iconique, c'était Beth et Tina.
Hey. What are you doing here all by yourself? I don't know.
Il y avait l'équivalent du fuckboy, c'était la lesbienne alpha, donc le personnage de Shane.
Somali and head trip the espresso of the day. Is that different than a regular shot?
No.
Donc il y avait une meuf bi, tu l'as dit, Alice. Effectivement, la saison 6 était un naufrage, on peut le dire.
Total.
Et le problème, de manière plus générale, c'est aussi que les séries doivent faire beaucoup de tone policing, c'est-à-dire faire très attention à leurs propos pour ne pas froisser les annonceurs et les dirigeants de chaînes de télé. Donc ça, c'est toujours une certaine pression.
D'ailleurs, à l'époque, le principal reproche qui avait été fait à la série, c'est que c'était un peu glamourisé, hypersexualisé aussi, peut-être pour faire bander les mecs hétéros, mais aussi pour vendre un sexe lesbien capitalisé. Et aussi, les privilèges n'étaient pas trop déconstruits, ou en tout cas pas assez. Tout le monde était riche, plutôt blanc, très mince. Mais malgré ça, la série permettait quand même à une foule de personnages assez baroques d'exister ici et pas ailleurs. Par exemple, Tasha, qui est un personnage d'afro-américaine, qui est soldate, donc justement victime du « don't ask, don't tell ». On a aussi Kit Porter, la sœur de Beth Porter, qui subit les conséquences d'un alcoolisme long. Ça aussi, l'alcoolisme des femmes, c'était pas abordé vraiment dans les séries à l'époque. Et il y a le personnage de Beth Porter, encore une fois très intéressant. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, elle insiste pour avoir un donneur de sperme noir dans la PMA qu'elle fait avec sa femme. Et cet enfant noir lui permet de réintégrer une famille qui la rejetait en tant que lesbienne. C'est quelque chose qui est hyper profond comme questionnement et qu'il est fou de trouver dans une série. Donc c'est quoi pour toi cette série ? Elle a eu quelle signification ?
Alors moi j'ai eu la chance de la regarder de manière concomitante quand j'habitais aux États-Unis. Donc c'était assez parfait, surtout que ma coloc était elle-même lesbienne et que du coup elle m'emmenait dans pas mal de bars queer. Voilà, et mon truc préféré, je pense, de la série, c'est un gimmick assez connu, c'est la matrice, donc qui est inventée par le personnage d'Alice, et qui explique pourquoi toutes les lesbiennes sont connectées, parce que tout le monde couche avec tout le monde. Voilà, on a le droit de pas être d'accord, hein, évidemment. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut bien mesurer l'importance qu'a eu la série à l'époque où l'offre était très rare. Et d'ailleurs, c'est aussi une série que regardaient les personnes hétérosexuelles. Et aujourd'hui, on peut encore mesurer son héritage, qui est quand même énorme, puisqu'il y a toujours de la fanfiction, des podcasts qui lui sont dédiés, par exemple, « The L-Word Made Me Gay », le titre très drôle. Et toi, du coup, comment est-ce que tu as découvert la série et quelle influence ça a eu sur ton identité ?
Bah déjà, tu parlais de la matrice, c'est très drôle, puisque voilà, le monde parisien et West Hollywood, c'est un peu la même chose, hein. Tout le monde couche avec tout le monde. Donc,
Qu'il n'y a pas de piscine et de jacuzzi.
Non, il y a la mutinerie. Ouais. Mais il y a plusieurs matrices qui sont en chantier en ce moment. Je connais au moins 3 ou 4 personnes qui sont en train de les fabriquer. Donc, voilà. Donc, comme je l'ai déjà dit, mais je peux le répéter, cette série est vraiment fondamentale dans ma construction de femme lesbienne, tout comme Gazon Maudit. Hein. Justement, le personnage de Josiane Balasco, Marie-Jo, elle me faisait dire que ma marraine pouvait être le personnage d'un film. Elward me dit que moi, je peux être le personnage d'un film, qu'on a le droit en fait d'exister et qu'on existe déjà. J'ai d'ailleurs constaté que c'était le cas pour beaucoup de femmes que j'ai rencontrées et que je connais. Et quand j'ai fait un sujet sur une croisière avec 1900 lesbiennes, un sujet que j'avais trouvé dans Elward, dans le bateau, c'était hallucinant puisque toutes ces femmes avaient ce référentiel commun et ça formait voilà, une communauté culturelle. Et dans le bateau, ça se voyait vraiment... Bon alors, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien, cette nouvelle saison ?
Donc déjà, la nouvelle saison s'appelle Generation Q, donc il faut bien le noter. C'est produit, mais ce n'est plus écrit par Eileen Shaken, désolée, puisqu'elle va passer le relais à d'autres, on en parlera ensuite. Et surtout, la série ne se passe plus à West Hollywood, mais dans le quartier hipster de Silver Lake. Voilà, pour les personnes qui connaissent Los Angeles, ça a sans doute son importance. Donc il y a ce changement géographique. Alors, que sont-elles devenues depuis une dizaine d'années ? Donc le personnage de Jenny est morte, R.I.P. See You Never.
Dead.
Donc Bette Porter se présente à l'élection de maire de Los Angeles, donc Bette Porter 2020, votez pour elle. Donc elle a une fille métisse qui est très chou. Le personnage d'Alice a une super émission qui est un petit peu comme Quoi de Meuf, mais pour la télé. Et elle vit aujourd'hui dans une famille recomposée. Shane est toujours coiffeuse, mais elle est devenue très riche. Elle est toujours aussi starfuckeuse et n'a pas changé de coupe de cheveux.
Elle a monté un salon à Paris.
Ouais, incroyable. Et alors pendant que donc, ses vieilles amies se retrouvent, la scène des bars lesbiens de Los Angeles périclite. Voilà, on n'en dira pas plus. Mais alors évidemment, pour attirer de nouveaux spectateurs et de nouvelles spectatrices, on a ajouté de nouveaux personnages, donc de nouvelles têtes qui sont plus jeunes, évidemment. Donc, il y a Dani, Gigi, Mika, Finlay. Alors, personnellement, j'ai un gros crush sur cette actrice. C'est Jacqueline Toboni qui jouait déjà dans la série Easy sur Netflix et qui me rappelle un petit peu Kristen Stewart.
Feels swirly right here in this area.
That's love, bro.
Oh, yeah.
Donc il y a un personnage d'assistante à la télé, une fille qui va se lancer en politique. Il y a des personnages racisés, des butch, des femmes. Et surtout, la série commence quand même par une scène de period sex, donc une scène de sexe pendant les règles, ce qui est assez cool. Voilà, et alors toi, qu'est-ce que tu en penses ?
J'avoue, la scène de période sexe, c'est vraiment très chou. Alors moi, j'en pense que Génération Q pour queer, c'était un peu une promesse et je trouve que ça fonctionne bien. Il n'y a plus besoin d'un personnage un peu fluide, gender fluide, comme Jenny l'était pour entrer dans un monde queer. Il y a un personnage d'homme trans gay qui est super bien représenté, qui est joué par l'acteur Leo Cheng. Dans la série originale, il y avait eu un problème, si on veut, avec le personnage de Max, qui était un personnage très intéressant, mais sa transition avait été assez mal perçue par la communauté trans, puisque ses hormones agissaient de façon très rapide, et surtout parce que le personnage était joué par une femme cis, ce qui était problématique. Là, c'est pas le cas, le personnage est joué par un acteur concerné, et on a appris aussi que la jeune actrice trans Sophie Giannamore, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, mais je le prononce à l'italienne, a aussi été castée. On va voir ce qu'elle joue ensuite. On n'en peut vraiment plus d'attendre.
Oui, d'ailleurs, elle-même jouait dans la série Transparent, ce qui est plutôt bon signe. Et donc, on le disait, ce n'est plus Eileen Shaken qui est aux manettes, mais cette fois-ci, c'est une nouvelle showrunneuse. C'est Marja Lewis-Ryan, qui est pour l'instant assez inconnue, puisque ses deux projets ne sont pas encore sortis, ils sont en post-production. Et alors, on l'écoute dans une interview parler de son rapport au travail.
My friends are black, brown, trans and pan. All I have to do is like be honest about my experience and the experience of my community, and hopefully people can walk into the show expecting that.
Donc quand elle a été interrogée, elle a dit que ce qui manquait pour elle dans les fictions queer sur Los Angeles, c'était les personnages asiatiques. Donc je trouve que c'est assez bien vu. Elle dit aussi que sa méthode de management, ce n'est plus d'embaucher une personne concernée à chaque fois, mais d'embaucher deux personnes. Donc deux personnes trans, deux personnes racisées, justement pour éviter ce qu'on appelle le tokenism, donc pour qu'il y ait une personne isolée à chaque fois. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que parmi les scénaristes de la série, il y a un certain Thomas Page McBee, qui était l'un des scénaristes de la série Les Chroniques de San Francisco, qui passait sur Netflix récemment. Et pour moi, c'est un peu inquiétant, vu la qualité de la série. Alors, en tout cas, ce qu'on peut se demander, c'est est-ce que la série peut parler aujourd'hui à un public ? Puisqu'entre 2004 et 2019, la société et le public ont évolué conjointement. C'est en tout cas ce que se demande le magazine LGBT américain The Advocate. Donc c'est quoi en fait les enjeux de cette série aujourd'hui, en tout cas pour qu'elle fonctionne ?
Bah, en tout cas, moi, j'ai tendance à me dire que ça va marcher. Bon, c'est peut-être parce que je suis un peu vieille et que la série originale, je l'adore, mais...
Tu n'es pas objective, Anne-Laure.
Non, là-dessus, je ne suis pas objective, mais quand même, je me dis que c'était très malin de lancer la série sur une course politique avec une femme racisée, donc Bette, qui lutte contre les lobbies. Petit wink à Alexandria Ocasio-Cortez. Hein.
Ms. Ocasio-Cortez is recognized for 5 minutes.
J'ai l'impression qu'elle a été un peu construite sur ce modèle-là, mais c'est peut-être dans ma tête. Et de sortir cette série avant la primaire démocrate, je trouve que c'est vraiment très très malin. En tout cas, moi, qui déteste les séquelles d'habitude, surtout les séquelles de séries que j'ai adorées, je trouve que là, c'est pour l'instant, les trois premiers épisodes montrent que ça peut marcher. En 2004, la série était totalement inouïe. Aujourd'hui, c'est une série qui fonctionne comme d'autres séries et qui parle de sujets qui sont déjà abordés. Donc ça change la donne, oui. Mais je pense que les petits jeunes, pour parler comme en 1990, vont découvrir ça avec plaisir en 2019. Et même s'ils découvrent ça en toute virginité, je pense qu'ils vont kiffer.
Du coup, tu préfères les anciens personnages ou les nouveaux ?
Bah, comme il n'y a plus de Jenny, j'ai tendance à dire que je suis contente qu'il n'y ait plus de Jenny. Je ne partage pas ton amour pour le personnage de Finlay. Elle a tendance à m'agacer, mais en même temps, je la trouve assez mignonne.
Mm.
Et toi ?
Bah, moi, j'ai toujours eu un gros crush sur Shane. Je sais, c'est horrible. Bon, mais c'est pas grave, j'assume.
Et du coup, qu'est-ce que tu en penses de la série ?
C'est vrai que dans ces cas-là, je pense qu'on se demande toujours un petit peu quelle est la nécessité de ce genre de sequel. Dans ce cas précis, il paraît que ce sont surtout les actrices en fait qui ont insisté, donc peut-être pour payer leurs impôts, je ne sais pas. Mais c'est vrai que le paysage télévisuel a quand même bien changé en une dizaine d'années, puisque aujourd'hui on a Queer Eye, Pose, Transparent, donc l'offre est quand même plus diversifiée et je pense que ça va être plus difficile pour la série de vraiment trouver sa place. Moi, j'avoue que j'ai regardé surtout par fidélité à la série originale. Et comme toi, en fait, j'aime bien que ce soit plus politique et aussi que la question des générations, en fait, se pose entre maman lesbienne et bébé lesbienne. Mais pour l'instant, j'ai un petit peu de mal à être très excitée par la série. Et je trouve surtout que le biais de classe n'a pas tellement évolué puisque ça se passe toujours chez les riches, donc sauf le personnage de Finlay qui est une grosse galérienne à vélo qui n'a pas de logement. J'ai peur qu'il y ait l'effet justement chronique de San Francisco et que ce soit mal écrit. Donc on verra dans la suite des épisodes ce qu'il en est. Et en attendant, je peux aussi vous recommander d'écouter le podcast de RuPaul avec une super interview de Kate Moening, donc l'actrice qui joue Shane et qui parle un peu de sa vie et de sa carrière. Voilà, donc c'est tout pour cette semaine. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un épisode long. Vous pouvez retrouver toutes les références dans la description de l'épisode. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux @quadmeuf, notamment sur Instagram, et nous laisser des étoiles si vous aimez cet épisode sur Apple Podcast. Merci, salut Anne-Laure.
Salut Clémentine.
Quadmeuf est une émission de Nouvelles Écoutes. Cet épisode est conçu par Clémentine Gallo
et présenté avec Anne-Laure Pinault,
monté et mixé par Laurie Galligani, générique réalisé par Aurore Meyer-Mailleux, prise de son et coordination Ashley Tola.